Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Dans une interview accordée mardi aux médias français à Paris, Paul Kagame a rejeté le rapport mapping refusant de reconnaître les crimes commis par l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Paul Kagame s'en est aussi pris au prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege. Répondant à son tour aux journalistes français qui voulaient obtenir sa réaction face à la déclaration de son homologue rwandais, le président congolais affirme vouloir privilégier la paix pour son peuple et le peuple voisin. Les rapports mapping n'ont pas été faits par les Congolais, mais par des gens objectifs, et justice doit être faite pour toutes les victimes au Congo et ailleurs dans la région, a rappelé Félix Tshisekedi, qui appelle donc Paul Kagame à avoir une attitude positive qui les pousserait à collaborer à ce que la justice soit faite. Au sujet du docteur Denis Mukwege, le président Félix Tshisekedi a déclaré, je cite, « Docteur Denis Mukwege est une fierté nationale. Il a toute mon affection et notre reconnaissance pour le travail qu'il fait auprès des victimes. » Fin de citation. De nombreuses organisations comme la MONUSCO et des personnalités congolaises ont également condamné la position du président rwandais. Quel est-il faire de cette déclaration du président Paul Kagame et des nombreuses réactions que cette position a suscité? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons dans cette émission Maître Juvenal Munubu Mubi, il est député national élu de Walika, le Nord Kivu. Cadre de l'INC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, il est rapporteur de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir Maître Juvenal Munubu Mubi.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonsoir Dismas Kitenge.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir les auditeurs de la Radio Kapi ainsi que tous les co-débatteurs de cette émission.
Et Timothée Tchaomo Soucha, il est chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Bonsoir Timothée Tchaomo Soucha.
Bonsoir chers Guy Maté, bonsoir à tous mes co-débatteurs et tous les Congolais, mais spécialement aussi au docteur Mukwege.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à Dialogue entre Congolais, laissez un commentaire ou posez une question en écrivant à dec@radiokapi.net. Appelez au 081 890 64 88. Laissez un commentaire sur la page Facebook intitulée Dialogue entre Congolais-Radio Okapi. Et n'oubliez pas de joindre à tous vos messages un numéro de téléphone par lequel nous pourrons vous appeler en cas de besoin.
Le président Félix Tshisekedi refuse de répondre directement à son homologue rwandais Paul Kagame. Dans une interview accordée mardi aux médias français à Paris, Paul Kagame mettait en cause les crimes commis par l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Il s'en est pris aussi au prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege, tout en rejetant les rapports mapping. Répondant aux journalistes français qui voulaient obtenir sa réaction face à la déclaration de son homologue rwandais, le chef de l'État congolais affirme vouloir privilégier la paix pour son peuple et le peuple voisin. Les rapports mapping n'ont pas été faits par les Congolais, mais par des gens objectifs, et justice doit être faite pour toutes les victimes au Congo et ailleurs dans la région, dit-il. Félix Tshisekedi appelle donc Paul Kagame à avoir une attitude positive qui les pousserait à collaborer à ce que la justice soit faite. On écoute Félix Tshisekedi.
Permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. C'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent. Ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce que à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc, il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, ce qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays.
Maître Juvenal Mounoubou Moubi, je rappelle que vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu, vous êtes cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, et vous êtes rapporteur de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée Nationale. D'abord, comment vous comprenez les propos du président rwandais Paul Kagame, et qui nie les crimes commis par son armée dans l'est de la RDC, et qui s'attaque à la personne des docteurs Denis Mukwege? Comment vous comprenez cela?
Tout d'abord, je dis bonsoir à M. Dismas Kitenge et à M. Timothée, les co-débatteurs dans cette émission. Dans les propos de Paul Kagame que nous avons tous suivis, en fait, il continue à narguer les Congolais parce que ce n'est pas la première fois qu'il nargue les Congolais. Mais il me semble que cette fois-ci, il est allé un peu plus loin. C'est ce que j'ai retenu. J'ai retenu aussi qu'il fait une sorte de fuite en avant. Parce que le rapport mapping, c'est un rapport des Nations Unies, comme vient de le rappeler le président Félix Tshisekedi, et donc il aurait dû attendre que les enquêtes commencent, parce que les enquêtes n'ont pas encore été ouvertes sur ces rapports. Et il nous faut, comme je le dis souvent, un tribunal pénal international sur le Congo, parce que la Cour pénale, elle, n'est compétente qu'après l'entrée en vigueur du statut de Rome, c'est-à-dire depuis 2002. Et donc, il ne pouvait pas faire une fuite en avant comme ça, parce que d'un côté... il semble offrir ses services pour la paix. Il dit qu'il serait même disposé à contribuer à notre état de siège ici. Mais de l'autre côté, il nous nargue.
Est-ce que c'était une surprise? N'est-ce pas que c'était prévisible? Parce que on se rappelle que le président Paul Kagame a toujours nié la responsabilité de son armée dans les crimes commis dans l'est de la RDC. Est-ce que c'était une surprise, ces propos-là?
Non, mais au moment où on voit un rapprochement entre le président Tshisekedi et le président Kagame, ça étonne tout de même que le président Kagame fasse une telle déclaration. Parce que lorsqu'il se voit, il s'appelle frère, hein, ami, frère, ce sont des mots qui sortent. Et donc, nous avons des raisons d'être un tout petit peu surpris, parce que on pouvait vraiment penser que ça avance en termes de rapprochement. Mais on se rend compte qu'il y a un peu de l'hypocrisie.
Réagissant à tes propos, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, dit refuser de répondre directement à son homologue rwandais Paul Kagame. Il affirme vouloir privilégier la paix pour son peuple et les peuples voisins. Est-ce que vous comprenez cette position du président Tshisekedi? Parce qu'il y a des gens, des personnes, n'est-ce pas, qui auraient souhaité une réaction ferme de la part du président de la RDC?
Moi, je crois que la réaction du président Tshisekedi, c'est une réaction bien dosée, c'est une réaction responsable. Vous savez, ça ne sert à rien de jeter l'huile au feu. Et là, vraiment, il est dans son rôle, non seulement comme président de la RDC, mais également président en exercice de l'Union africaine. Je crois qu'il a fait une bonne réaction. Mais sauf que la réaction aurait dû peut-être venir un peu plus tôt. Parce que ça méritait quand même une réaction immédiate. Parce qu'il a fallu attendre quand même quelques heures. Mais en termes de contenu de la réaction, je crois que c'est une bonne réaction. Alors, le président Kagame ne doit pas nier. C'est le moment ici de rappeler tous ces sites devenus historiques. Il y a, par exemple, Kafika, Makobola, hein, Viura, Mugunga, Tingi Tingi, Kisangani, Dismas Kitenge pourrait nous en dire un peu plus parce qu'il vient de là. La guerre des six jours en 2000 entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. On ne peut pas oublier tout ça. Raison pour laquelle moi je suis froid par rapport à toutes ces initiatives du genre mettre sur pied une coordination militaire sur terrain avec les Ougandais ou faire venir encore des Rwandais ici. Je crois qu'ils ont eu le temps d'être ici. Kagame, lorsqu'il dit que si lui il était déjà ici, il y aurait déjà la paix, mais c'est faux. Parce qu'il a été ici, son armée était ici pendant 5 ans. Mais le problème est de l'air de mer. Hein, s'il était capable de terminer tous ces problèmes, y compris le problème FDLR, eh bien il l'aurait fait. Parce que c'est lui qui était à la tête du RCD. Le RCD était là, mais derrière, on voyait que c'était le Rwanda. Le MLC était là, mais derrière, on savait que c'était l'Ouganda. Et donc, ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps de faire des défilés ici. Ils ont eu le temps, et les rapports des Nations Unies nous disent aussi qu'ils ont pu exploiter de minerais. Les rapports CASEM de 2002, si je me souviens. Sur l'exploitation illégale des ressources naturelles, eh bien, ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps de montrer leurs preuves. Et puis c'était une agression aussi, les livres blancs existent.
Merci.
Et donc il a tapé à côté, c'est une très mauvaise sortie médiatique. Je crois que ça a été une très très mauvaise communication. Et ses conseillers devraient s'en rendre compte, quoi, à Kigali.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo-Moubi. Dispas Kitenge, vous êtes président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. On sait naturellement que vous avez réagi négativement, n'est-ce pas, aux propos négationnistes de Kagame. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il tienne un autre discours que celui-là?
Donc je dirais que je m'attendais un peu, connaissant la réaction du président Kagame et pour toutes les questions des droits humains en général, y compris dans son propre pays. Donc c'est un homme qui ne croit pas beaucoup aux droits humains, donc je m'attendais un peu à ça. Mais en même temps, c'est allé un peu plus loin, ce qui constitue un peu une surprise et une révolte, à mon sens, en tant que défenseur des droits humains et en tant que aussi responsable d'une organisation qui accompagne les victimes, y compris des crimes qui ont été commis à Kisangani et ailleurs, et qui attendent justice et réparation, de constater qu'à ce moment où il veut harmoniser, ou que le Congo veut harmoniser des bonnes relations avec lui, il profite de son séjour à Paris, au cours de ce sommet, à marge de ce sommet, pour faire cette déclaration. C'est vraiment un sentiment de révolte qui m'a animé et que j'ai exprimé dans les médias. Mais en ce qui me concerne, la lecture que je fais très rapidement de cette déclaration, c'est à quatre niveaux. Le premier niveau, c'est le manque de respect pour les victimes congolaises et pour le Congo lui-même. C'est un manque de respect extraordinaire et ce manque de respect pour les victimes et pour le Congo se traduit par le principe qu'on sait, le rapport de force. Donc Kagame, il se croit, et lui et son pays, qui sont plus forts que le Congo, plus forts que les autres, et qu'il peut dire n'importe quoi sans qu'il... puisse courir un risque même de menace, de rupture des relations diplomatiques, tout ça, donc voilà. Deuxièmement, cette difficulté que le président Kagame et son régime autoritaire manifestent toujours, c'est de dire la paix au-dessus de la justice. Hein, c'est comme ça qu'il a dit aussi dans cette interview que pour lui, il est prêt à coopérer pour le retour de la paix, mais il oublie qu'une paix durable est assise sur la justice. Et ce que lui veut pour son pays, il a été battu pour la reconnaissance du génocide dans son pays, et que le Congo a droit aussi de se battre pour la reconnaissance des crimes graves qui sont des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et les actes de génocide qui ont été commis par l'armée rwandaise sous sa houlette comme chef de l'État. Donc je pense que la paix et la justice ne sont pas antinomiques. Troisième élément, c'est le manque de protection et de sécurité pour les acteurs droits humains, de la paix, de la région. Donc on connaît ça, on connaît la situation qui se passe des droits humains. On a vu à travers les attaques contre le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, symbole de cet engagement pour les droits humains, pour la justice. Donc c'est à travers lui que le président Kagame défie tous les défenseurs des droits humains, tous ceux qui s'engagent. Donc là aussi se pose ce problème de reconnaissance de cette personnalité, mais aussi cette précarité, cette fragilité de tous les acteurs des droits humains qui opèrent dans cette région proche du Rwanda et qui risquent de connaître de telles menaces qui sont pas la première. C'est pas la première fois que le président Kagame menace le docteur Mukwege comme le défenseur des droits humains de son pays. Et quatrième point, le dernier à ce stade, c'est les deux poids, deux mesures. Ce que le président Kagame a dit n'est ni moins ni plus un défi pour la communauté internationale. La communauté internationale qui doit mettre tous les pays au même diapason, qui doit réactiver le principe des droits humains qui sont des principes universels. Le principe de la justice pour les crimes internationaux, n'est pas seulement reconnaître ce qui s'est passé au Rwanda comme génocide et sous-estimer les crimes graves qui ont été commis au Congo, puisque les éléments de preuve ont été là, les rapports MAPIG est là, et comme beaucoup d'autres rapports qui ont précédé les rapports, et là c'est un défi pour la communauté internationale qui doit aussi se soulever, réagir à ces propos-là et à aller au-delà de ce qui a été dit pour mettre en place un mécanisme de justice internationale.
Dismas Kitenge, vous avez rappelé qu'il a dit qu'il est prêt à coopérer pour le retour de la paix dans la région, mais entre-temps, il tient un discours négationniste. On a l'impression qu'il l'a fait sciemment. Ça peut cacher quoi tout ça? C'est quoi, à votre avis, les dessous des cartes?
Les dessous des cartes, c'est que le président Kagame en montrant cette contradiction, d'un côté, il dit qu'il peut collaborer, et de l'autre côté, il affirme, il ne reconnaît pas ce qui s'est passé dans le passé, pour lui, se jeter dans le... C'est pour montrer clairement sa position qui ne croit pas beaucoup à une paix durable au Congo, et que ce n'est pas son affaire. C'est un discours juste pour montrer aux autorités congolaises qu'il est disposé à les aider, mais ce n'est pas une aide sincère. Puisqu'on sait très bien que la plupart des groupes armés qui sont là à l'Est ont une base arrière d'une manière ou d'une autre, le Rwanda, qui les aide. Et ce n'est pas la première fois, malgré tous les accords qui ont été signés. Nous avons même l'accord d'Addis Abeba qui date de 2012, mais qui souffre d'application. Donc là, c'est une réaction mitigée, c'est une déclaration à prendre avec beaucoup de réserve. Pourquoi ? Puisque la sincérité n'est pas montrée. Puisque ce qu'il a dit, ça traduit un peu son état d'âme, ça traduit un peu le fort intérieur de l'homme et de son régime. Donc les autorités congolaises doivent les considérer comme un acteur avec beaucoup de réserves, qui ne faut pas trop impliquer, ni compter beaucoup sur lui pour la paix au Congo. Et aussi la communauté internationale, à travers ce qu'il a dit, doivent dénicher son comportement et son agenda caché pour le Congo. C'est qu'en réalité, il n'est pas pour la paix durable, hein, qui doit être assise sur la justice.
Il a dit que pour instituer le tribunal spécial pour la RDC, que réclame depuis plusieurs années le docteur Denis Mukwege, ainsi que beaucoup de Congolais, notamment les ONG, vous les défenseurs des droits des humains, on dit que pour instituer ce tribunal, il faut la collaboration de tous les pays de la région. Après avoir suivi ces propos du président Kagame, on ne peut pas craindre que ce projet de la mise en place de ce tribunal ne soit qu'hypothétique.
C'est vrai qu'il y a des doutes, mais je pense, comme nous l'avons dit, et nous travaillons là-dessus, nous avons mené beaucoup de plaidoyers avant même le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege nous a rejoint, nous, les organisations de défense des droits humains sur le plan national et international. Donc, il faut deux éléments clés. Un, la volonté du Congo. Puisqu'il faut reconnaître qu'il y avait cette résolution du dialogue intercongolais de 2002 qui demandait que le gouvernement de transition 1 plus 4 devait faire la demande expresse, claire, au Conseil de sécurité pour la mise en place de ce tribunal pénal international. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Ça n'a pas été fait. Donc, ça dénote un manque de volonté politique du gouvernement congolais à demander au Conseil de sécurité la mise en place de ce mécanisme-là de justice internationale d'une manière claire. Jusqu'à présent, même l'actuel gouvernement ne l'a pas encore fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, c'est du côté du Conseil de sécurité, du côté de la communauté internationale au sens large, qui doit aussi s'engager pour soutenir. Donc, je pense que les deux éléments essentiels, la volonté politique clairement exprimée par la RDC pour mettre en place à travers un écrit, à travers la saisine du Conseil de sécurité, et deuxièmement, la réponse du Conseil de sécurité des Nations Unies sont deux éléments qui sont très importants pour la mise en place de ce mécanisme de justice pénale internationale que nous demandons de tous nos voeux. Pourquoi ? Parce que ça aura l'avantage, contrairement aux juridictions mixtes, de poursuivre également les acteurs internationaux qui ont été impliqués dans la commission des crimes internationaux qui ont été commis en RDC.
Merci Timothée Tchaombo Soutcha. Vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Nous le disons dans cette émission, Paul Kagame nie les crimes de son armée dans l'est de la RDC, chose qui suscite des réactions de la part non seulement des Congolais, mais aussi de la communauté internationale. Quelle est-il au fait de cette situation, Timothée Tchaombo Soutcha?
Effectivement, comme l'ont dit mes co-débatteurs, mais je vais me réajouter mon analyse sur deux formes. Sur le plan formel déjà, et sur le plan fondamental. Sur le plan formel, qu'est-ce qu'il y a de façon épidermique poussé le président Kagame à cette hargne, hein, finalement, à cette attitude négationniste? C'est d'abord, il faut vous rappeler au mois de mars, fin mars, début avril, les communiqués américains disaient que dans les Kivu, les crimes qui sont commis dans les Kivu étaient commis par le groupe État islamique, Daesh. Et que de ce fait, j'avais, lorsque j'étais de passage à Kinshasa, monté sur le créneau pour dire attention, là, les États-Unis sont en train de déjouer la carte afin de cacher son allié traditionnel de la région à travers le Rwanda, Paul Kagame qui a été fabriqué par les services américains. Donc, Le communiqué américain du mois de mars était en train de dédouaner la responsabilité du Rwanda de Paul Kagame dans le crime du Kivu. Or, nous savons qu'avant l'arrivée de Daesh, avant l'arrivée d'Acmi, avant l'arrivée de Boko Haram, à l'époque, nous n'avions pas ce groupe terroriste. Lorsque le ministre des Affaires étrangères, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, et même au début avec Joseph Kabila, était en train de faire convaincre Madame Albright que nous n'avions pas de groupes armés, mais des groupes d'agresseurs, de pays d'agresseurs. Donc, ça, c'est un premier élément. Et donc, Paul Kagame va s'asseoir sur le communiqué américain. Un deuxième élément, c'est toujours de nature des criminels. Il y a un principe basique en droit, en procédure judiciaire, en latin, qui dit « actor incumbit probatio ». La preuve incombe au demandeur. Vous ne pouvez pas demander à un voleur, à un criminel ou un trafiquant de drogue d'accepter, de dire s'il a oui ou non commis le crime. La première réponse dira « il n'a pas commis ». Pourquoi ? Parce que pour Paul Kagame, il sait que la responsabilité des commandants lui sera attribuée et que donc il doit répondre de ce crime. Et là, il faut saluer la réaction très bien pour Radio Capi d'organiser ces discussions après la réaction du président Tshisekedi qui a parfaitement, et ça c'est la plus belle sortie médiatique, une déclaration hautement politique et philosophique, même diplomatique, qui a dit que c'est la justice. La justice. Mais nous craignons qu'un État belliqueux comme le Rwanda, le président Kagame qui fonctionne, et là j'entre dans le cadre de mon analyse fondamentale, des grandes craintes qu'il y a de la part du président Kagame. Est-ce que vous savez que la stabilité du Rwanda est basée sur le crédit génocide? C'est-à-dire, l'ensemble de la communauté internationale s'était liée pour dire plus jamais de mal à la communauté Tutsi et à la communauté humaine, entre guillemets. Et que donc, il faut protéger la communauté minoritaire, entre guillemets, des Tutsis, même si les Tutsis ne sont pas minoritaires. Les Tutsis sont ceux que nous appelons les Peuls. Les Tutsis sont ceux que nous appelons les Nilotiques. Donc, ils occupent carrément plus de la moitié de l'Afrique de l'Est, etc. C'est pas ça le débat. Mais le crédit génocide fait qu'au Rwanda, on permet un petit peu au président Kagame de faire n'importe quoi et au-delà de ses frontières. Deuxième élément qui fait la stabilité du système de gestion de Paul Kagame, c'est les groupes armés dans le Kivu. Vous savez que le thème des campagnes, c'est qu'il y a la présence des menaces des Interahamwe, des ex-génocidaires qui veulent déstabiliser le Rwanda et que bon, il faut intervenir pour les anéantir. Nous avons vu plus de 20 ans que les Interahamwe ont baissé, même s'ils sont encore présents, mais ne représentent plus la menace au gouvernement rwandais. Ils n'ont jamais jeté même une grenade, une pierre. Donc les groupes armés sont à la base de la stabilité de l'économie parce que ce sont des groupes armés qui font la contrebande. Ces groupes armés n'ont pas l'intention, les ambitions de prendre tous les gouvernements congolais, renverser le système à Kinshasa. C'est des creuseurs, des minéraux, qui ravitaillent l'économie rwandaise. Alors, l'exclusivité de mes analyses, c'est quoi? C'est que depuis, et moi je n'ai jamais, comme spécialiste en matière d'études et des rapports de force dans le monde, je n'ai jamais, depuis deux ans et demi, observé et compris la portée du système sécuritaire et de défense du président Tshisekedi. Je n'ai jamais compris. Et du coup, Tshisekedi a pris Paul Kagame à pied levé en décrétant l'état de siège dans les deux provinces. Je mets une petite parenthèse ici. Vous savez que Paul Kagame a toujours nié qu'il n'a pas de troupes dans la région. Voilà, ça c'est un premier élément. Il y a eu des enquêtes de RFI, France 24, qui ont montré qu'il y a beaucoup des unités spéciales de Paul Kagame qui se trouvent dans le Kivu. Alors, l'état de siège a deux conséquences qu'on ne vous dit pas et que le gouvernement de Kigali, parce que c'est un gouvernement fermé comme la Corée du Nord, et là-bas on ne discute pas politique, etc. Deux conséquences depuis environ 20 jours que l'état de siège a été décrété. Premier élément, les groupes armés creuseurs sont en débandade et donc la contrebande des minéraux qui traverse vers Kigali, la contrebande est stoppée et l'économie du Rwanda est aux arrêts, quasiment aux arrêts, parce qu'il n'y a plus ravitaillement. Ça, c'est une vérité qu'à Kigali, on ne dira pas assez. Deuxième élément, à Kigali, il y a énormément de deuils, selon nos sources dans la région. Pourquoi? Parce que lorsque l'état de siège a été proclamé, la population congolaise, de manière inédite, s'est mise à collaborer avec son armée jusqu'à dénicher les complices au sein de l'armée, les complices au sein de la population, mais aussi dénicher à tous les niveaux que se trouvent les groupes nationaux ou étrangers qui sont les groupes armés. totales opérations à Kigali et même en Ouganda, il y a énormément de deuils dans des familles. Pourquoi? Parce que leurs éléments sont morts, continuent à être traqués dans l'opération impitoyable qui se trouve dans le Kivu. Voilà le photogramme du contexte dans lequel se trouve la sortie médiatique et fracassante du président Kagame qui s'est exprimé de la manière la plus insolente, arrogante contre les morts congolais.
Alors, Timothée Diambo,
oui,
vous avez salué la réaction du président Félix Tshisekedi qui dit refuser de répondre directement à son homologue rwandais Paul Kagame, mais on l'a suivi, il répond quand même en demandant à son homologue rwandais d'avoir une attitude positive qui les pousserait à collaborer à ce que la justice soit faite. Et à votre avis, une réponse directe du président congolais à son homologue rwandais comporterait des éléments différents de ceux contenus dans sa déclaration d'hier?
Je crois que le président Tshisekedi, sans répondre, a répondu, c'est ce qu'on appelle les contenants qui annoncent les contenus. C'est probablement les mêmes propos que le président Tshisekedi va coucher, soit dans sa correspondance du rail et des émissaires qui iront à Kigali, ou ils pourront confronter l'ambassadeur du Rwanda qui va peut-être lui remettre une correspondance dans ce sens-là, un communiqué ou le message de son homologue congolais. Mais en réalité, le président, Tshisekedi a trois options sur sa table. La première option est une option politique. C'est ce qu'il fait, des rapprochements entre le Rwanda et nous. Deuxième option, c'est l'option diplomatique. Il est président aussi de l'Union africaine et que donc il est le père de toute l'Afrique, y compris du Rwanda. Voilà. Donc il ne peut pas être jugé parti en même temps. C'est pour cette raison, je salue même ces commentaires de Juvenal Mulobo, le président ne pouvait pas aller au-delà. Troisièmement, l'option militaire. Et l'option militaire, le président Tshisekedi a choisi une stratégie que personne ne pouvait soupçonner. Et d'ailleurs, les propos du président Kagame montrent au président Tshisekedi clairement que ce n'est plus quelqu'un qui soit invité pour résoudre le problème à l'intérieur. Un deuxième élément très important qu'il faut souligner dans cette affaire, c'est que nous sommes de plein pied dans la deuxième guerre froide liée à la transition énergétique et la question écologique. Actuellement, Paul Kagame n'est plus l'enjeu régional. Paul Kagame est arrivé à la fin, et d'ailleurs les communiqués que j'ai dit tantôt américains étaient de nature à le dégainer afin de chercher à faire une sortie ici honorable et favorable au président Kagame. L'enjeu aujourd'hui lié à la transition énergétique se joue à RDC et la communauté internationale. Vous l'avez vu la semaine dernière, Charles Michel arrivé à Kinshasa, mais aussi beaucoup de ministères américains qui viennent coopérer directement avec l'État congolais, qui est dépassé par un État belliqueux qui fonctionne comme la Corée du Nord et l'Allemagne nazie. Et que donc aujourd'hui, il revient à la capacité managériale, diplomatique, politique du président Tshisekedi de savoir avec quelle coopération. Et pour cette raison, j'appuie le président Tshisekedi lorsqu'il dit que c'est justice, que la justice doit nous départager entre les crimes qui sont commis à RDC, ceux qui sont commis au Rwanda, qui sont commis au Burundi ou dans la région. C'est la justice. Et donc, c'est le lieu de saluer les rapports mapping, et le président Tshisekedi l'a rappelé. Et le rapport mapping n'est pas un rapport de Tshisekedi ou de Kagame ou de Kinoké. C'est un rapport de l'ensemble de la communauté internationale à travers les experts des Nations Unies.
Merci.
Alors, celui qui voudrait coopérer ne doit que coopérer avec la justice.
Merci. Maître Juvenal Mounoubou Moubi, vous êtes député national élu du peuple et rapporteur de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Les propos de Paul Kagame n'ont pas passé inaperçus, n'est-ce pas, dans l'opinion publique congolaise, surtout dans l'est de la RDC, d'où vous avez été élu. Et qu'est-ce qui est fait par les parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des Sénats, pour, n'est-ce pas, réagir face à ces propos qui sont considérés comme étant une façon pour le président Kagame de cracher, n'est-ce pas, sur toutes les victimes des crimes commis dans l'est de la RDC?
Personnellement, j'ai réagi. J'ai réagi sur l'une des deux antennes, l'une des deux chaînes sur lesquelles est passé Paul Kagame. J'ai réagi sur RFI. Et puis, pour ma part aussi, j'ai fait passer le message en interne. Vous savez, on est dans une étape où on attend reconfigurer les commissions permanente à l'Assemblée nationale pour les adapter à l'Union sacrée. On est un peu dans une petite transition comme ça, mais je fais passer le message. Parce que l'idée est que, mais pas que sur le propos de Kagame, mais qu'on débatte aussi sur l'état de siège. Parce que depuis que l'état de siège a été lancé, le Parlement n'a pas joué un rôle actif. Il faut que le Parlement joue effectivement un rôle actif en vertu de l'article 85 de la Constitution. Notre rôle ne doit pas se limiter seulement au rôle de prorogation
ou de l'organe qui proroge ou qui renouvelle l'état des sièges. Nous devons d'ores et déjà suivre si des garde-fous sont suffisants pour éviter des violations de droits de l'homme, parce que là, le pouvoir, c'est un exercice assez particulier du pouvoir maintenant au Nord Kivu et en Ituri, parce que ce sont des militaires qui sont à la tête des provinces. Eh bien, on doit suivre pour voir si cela n'emporte pas aussi des risques de violations des droits de l'homme. Et donc, nous devons suivre de très près. Donc, j'ai passé le message, et dans les médias, et en interne, et nous allons continuer à passer le message. J'ai signé aussi, j'ai co-signé une tribune avec des journalistes, avec des défenseurs des droits humains, des chercheurs, c'est près de 60 personnalités congolaises. Nous avons signé notre tribune hier, et là nous avons souligné que le président Kagame a commis le négationnisme. Au Rwanda, on appellerait ça aussi négationnisme, ce qu'il a fait là. Il pouvait pas nier. Il pouvait pas nier parce que des victimes, il y en a beaucoup au Congo, à la suite de ces deux, trois interventions au Congo. Il y a l'AFDL, il y a les RCD, il y a l'appui au M23, au CNDP, rappelez-vous de l'addendum du rapport du groupe d'experts, où il est démontré clairement le soutien du Rwanda aux rébellions, je crois au CNDP. Et donc, il ne pouvait pas nier un bloc comme ça. Et comme on l'a dit, il n'a pas assez de niveau de droits de l'homme, peut-être. Et c'est quand même regrettable pour quelqu'un qui s'est dit vouloir contribuer à la paix dans la région.
Dismas Kitenge, selon ce qui s'est dit, on envisagerait, n'est-ce pas, des opérations conjointes FRDC et armée rwandaise pour ramener la paix dans l'est de la RDC. Après ces propos de Paul Kagame, est-ce que les lignes ne vont pas bouger? Est-ce qu'il faut continuer à envisager une telle éventualité?
Nous, comme défenseurs des droits humains, je disais, qui militent pour la cessation, la fin de l'impunité, en RDC, nous avons toujours dit qu'il faut une conditionnalité à chaque opération militaire, à chaque domaine de coopération, que ce soit international, que ce soit aussi dans les opérations militaires internes ou nationales, qu'on ne mette pas les personnes sur lesquelles pèsent des soupçons graves ou qui ont été impliquées d'une manière ou d'une autre sur la perpétration des crimes internationaux ou des violations graves des droits humains ou du droit international humanitaire. Or, l'armée rwandaise est réputée avoir commis beaucoup des crimes, des violations des droits humains, du droit international humanitaire dans notre pays, et recourir encore à cette armée-là pour faire la paix, c'est donner une prime de l'impunité à l'armée rwandaise, hein, qui a beaucoup de litiges à régler ici. Il y a l'élève du passé qui est très négatif. Donc je pense que cette option-là n'est pas soutenue par la société civile congolaise et en général les populations congolaises qui ont beaucoup souffert de cette présence-là. Je pense que s'il faut chercher d'autres acteurs internationaux qui sont propres en matière de droits humains, l'État congolais est libre de les chercher, mais pas en tout cas le mandat. Et je pense que la coopération qui peut se faire peut être sous la forme des échanges de renseignements entre les deux armées, et ça s'est fait déjà. Et je pense que là, mais autoriser qu'une présence militaire rwandaise sur le sol congolais, et c'est encore donner une prime à l'impunité, c'est encourager les déclarations du président Paul Kagame, qui vient de dire clairement, qu'il vient de démontrer qu'il n'est pas pour les droits humains. Donc je pense que ça c'est un. Deux, ce qu'il faut faire, c'est que le Congo n'est pas incapable de restaurer la paix. Ce qui s'est fait, c'est que nous disons tout simplement qu'il faut donner les moyens à notre armée. Il faut aussi soutenir les victimes, hein, à les faire entendre. Mais aussi, il faut faire le vetting. C'est l'opération aujourd'hui d'écarter les personnes ou les autorités sur lesquelles pèsent les soupçons des droits humains qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre, hein, pour rendre ces opérations beaucoup plus propres, comme les anglophones disent, crime en matière de droits humains.
Timothée Tshaumo Soucha, en analysant, n'est-ce pas, les propos de Paul Kagame, vous avez évoqué l'état de siège qui a été décrété récemment par le président Félix Tshisekedi, et vous avez dit que cet état de siège a des conséquences, notamment le fait que les groupes armés dans l'est de la RDC sont en débandade, et donc on ne sont plus en mesure, n'est-ce pas, de faire les trafics des minerais, ces trafics illicites des minerais qui profitaient au Rwanda, selon beaucoup d'experts. Alors, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que l'état de siège décrété par Félix Tshisekedi, même si le président Kagame a dit qu'il soutenait cet état de siège, en réalité, il n'est pas d'accord avec cette décision?
Oui, en réalité, le président Kagame cache ses apparences et il n'est pas du tout d'accord avec cette décision. parce qu'il a tenté d'expliquer cette décision qui n'a pas mûri les conséquences d'après. En réalité, d'ailleurs, la question que j'avais posée tantôt à mon co-débatteur, savoir si on ne peut pas impliquer les troupes rwandaises en RDC pour trouver solution, la réponse est qu'on ne peut plus l'impliquer, parce que nous l'avons fait par le passé, autant avec Joseph Kabila, que pendant tous ces 18 ans, et qu'il n'y avait pas de solution. Même s'il y a un principe qui dit qu'une partie au problème peut être une partie à la solution, en ce qui concerne le Rwanda, nous avons toujours vu que lorsque les troupes arrivent, personne ne peut nous dire si les troupes rentrent au complet vers le Rwanda, et que c'est une occasion de laisser de façon officielle certaines unités spéciales qui, au lendemain, les Nations Unies ont toujours mis la main sur des éléments de l'armée rwandaise, les éléments actifs de l'armée rwandaise sur notre sol. Donc, il n'est plus question de cela. Alors, le président Kagame a été surpris par les opérations dans le Kivu et dans l'Ituri. Vous savez que l'Ituri et le Kivu, et le Grand Kivu en général, constituent la base où se trouvent pratiquement 60% des minerais qui rentrent dans les technologies d'aujourd'hui. Et que donc, il faut, les armées ougandaises et rwandaises se sont battues plusieurs fois. Aujourd'hui, il faut absolument donner des moyens à l'état-major des FARDC. Nos militaires ont toujours montré de quoi ils sont capables lorsqu'ils travaillent en connivence, en collaboration avec la population. Je crois que la situation du Kivu va trouver solution. Nous ne devons pas faire confiance à un pays. L'Allemagne et la France, pour arriver à une coopération normale, sont passées d'abord par une commission de vérité et réconciliation. Nous ne devons pas brûler, malgré la bonne volonté du président Tshisekedi, nous ne devons pas brûler les étapes. Il n'y a pas encore une véritable commission de vérité et réconciliation entre le Rwanda et la RDC. Tant que le président Kagame campe sur sa position négationniste, nous ne devons pas, nous-mêmes, à travers une attitude de faiblesse, vouloir laisser les champs libres aux criminels rwandais de venir encore chercher ses propres présumés criminels en RDC. Ça ne peut plus se faire. Nous devons contribuer à la stabilité de notre pays à travers nos militaires. Un dernier élément qu'il faut dire, c'est ici l'occasion pour inviter l'ensemble de la communauté nationale avoir une autre attitude, un autre regard par rapport à la MONUSCO et appuyer le docteur Mukwege pour que, finalement, nous ayons un tribunal pénal international pour la RDC. Je ne crois pas qu'il faut l'aval, la volonté des pays de la région qui sont impliqués dans ces crimes-là pour que, finalement, on puisse restaurer ce tribunal. Léonard Tshiokitundo était ministre des Affaires étrangères. Il a fait condamner, je dis ministre des Droits humains du gouvernement de Laurent Désiré Kabila, il a fait condamner l'Ouganda. Il était en mesure de faire condamner le Rwanda, mais finalement, Mugabe était mort et cette situation était bloquée. Donc, ces pays de la région ne peuvent pas être une condition, leur accord ne doit pas être une condition pour que nous puissions, nous, Congolais, nous qui avons perdu plus de 6 millions de personnes, afin que la communauté internationale puisse venir installer un tribunal pénal international. Nous devons appuyer les organisations tant politiques que civiles, la communauté des scientifiques, nous devons appuyer le prix Nobel docteur Mukwege afin que finalement il y ait la responsabilité. Et l'ensemble de la communauté internationale qui se bat aujourd'hui sur notre sol pour cette nouvelle guerre de la transition énergétique peut être de notre côté si nous utilisons des canaux et un système de communication organisé et adéquat.
Qu'est-ce qui pourrait changer dans la sous-région des Grands Lacs après ces propos de Paul Kagame?
Deux ou trois éléments pourront contribuer au changement de la situation dans les Grands Lacs. C'est d'abord la capacité diplomatique du président du régime et du président Tshisekedi d'appuyer Dr. Denis Mukwege, de solliciter par tous les moyens un tribunal pénal international pour la RDC. Un deuxième élément, la mobilisation de l'ensemble de notre peuple pour soutenir les institutions, notamment en veillant. Nous devons veiller sur nos frontières, nous devons veiller à collaborer avec l'armée, mais surtout à mobiliser des fonds pour que nous puissions, l'État congolais puisse allouer des moyens adéquats afin que nos militaires, nos FARDC, ne puissent pas manquer quelque chose.
Maître Juvenal Mounoubou Moubi, est-ce que vous êtes là?
Oui, je vous écoute.
Voilà, je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui pourrait changer dans la sous-région des Grands Lacs après ces propos de Paul Kagame.
Kinshasa devrait savoir que le partenaire rwandais, il faut faire attention un peu avec lui. C'est vrai, nous encourageons le président Tshisekedi dans sa politique d'ouverture parce qu'il n'y a personne, aucun pays ne peut vivre en vase clos dans ce 21e siècle. Mais il faut toujours faire attention parce que la politique, c'est avant tout les intérêts, hein, dans les relations extérieures, les relations internationales. Et donc, les propos du président Kagame nous montrent que c'est pas tellement un frère. Hein, c'est pas tellement un frère de par les propos. Parce que il ne pouvait pas nier des crimes aussi graves commis en territoire congolais. Si ces crimes étaient commis chez lui, il n'y nierait pas. Raison pour laquelle, vite, au Rwanda, vous êtes traité de négationniste si vous essayez de dire qu'il y a eu des Hutus aussi qui ont été tués. Et donc, la même sensibilité qu'il a dans son pays, il devrait l'avoir aussi pour la RDC. Alors, est-ce qu'il faut faire venir les troupes étrangères ici? J'ai dit tout de suite non. Parce qu'il y a des discussions comme ça un peu en catimini, c'est soit avec les Ougandais. Vous avez appris il y a peut-être un peu plus d'une semaine, le chef d'état-major ougandais était même à Beni pour installer une, ce qu'ils appellent coordination des opérations. Et bien faire venir des troupes étrangères ici, surtout des troupes rwandaises, des troupes ougandaises, alors qu'on sait tout ce qu'ils ont fait ici, tous les séjours qu'ils ont passés ici au Congo. Je crois que c'est vraiment une erreur tactique, c'est vraiment une erreur stratégique.
Merci, Lisbeth Kitenge. À vous la même question. Qu'est-ce qui pourrait changer dans la sous-région des Grands Lacs après les propos de Paul Kagame?
Ce qui doit changer, c'est que la volonté politique congolaise de lutter contre l'impunité de ces crimes-là, en mettant en place des stratégies et en mobilisant des moyens et en faisant entendre les victimes. Puisque le gouvernement congolais doit avoir une volonté politique claire de régler cette question de justice non seulement transitionnel, mais international. C'est-à-dire impliquer les acteurs internationaux d'une volonté politique claire de régler ces questions de violation des droits humains et du droit international humanitaire du passé. Deuxièmement, c'est mettre les victimes, soutenir les victimes. Puisque Kagame et l'ambassadeur rwandais au Congo l'a dit, hein, il n'y a pas de victimes. Et l'ambassadeur a précédé le président Kagame. Et ce que l'ambassadeur congolais rwandais plutôt a dit à Kinshasa il y a quelques mois vient d'être renforcé par son président. Ils sont dans la même ligne stratégique et de défense. Donc je pense qu'il faut que les victimes congolaises se manifestent, s'expriment, s'organisent et que l'État doit les aider, les accompagner, renforcer leur capacité d'action en termes de plaintes qui doivent être déposées tant au Congo qu'à l'étranger, et leur donner aussi la visibilité sur le plan international.
Merci, nous sommes à la fin de l'émission, et nous allons conclure. Timothée Tshaombo Soutcha, c'est quoi votre mot de la fin?
Mon mot de la fin, c'est d'inviter le président Tshisekedi avec le gouvernement congolais de ne plus mettre autour de la table les groupes armés, faire ce qu'on appelle les brassages, etc. Ceux qui ne veulent pas se rendre doivent être écrasés et ceux qui sont arrêtés doivent arriver dans la vie civile.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo Moubi. Votre conclusion?
Ce qui n'a peut-être pas été dit, hein, c'est en rapport avec la MONUSCO, parce que Kagame en a parlé aussi. Et là, les populations de l'Est devraient quand même s'interroger un tout petit peu, hein, parce que Kagame a dit que la MONUSCO, c'est un échec total. Eh bien, alors, est-ce qu'il l'a dit parce qu'il... Il veut bien protéger la population congolaise. Est-ce qu'il l'a dit puisqu'il a des soucis envers les populations de l'Est? Je crois qu'il y a moyen de se poser des questions parce que c'est vrai, la MONUSCO a beaucoup de faiblesses. Hein. Il faut renforcer son action. Il faut une très bonne collaboration avec les FARDC, comme ce fut le cas sur les fronts contre la M23. Mais il faut être assez prudent dans les jugements parfois qu'on fait sur la MONUSCO. Et voilà, donc il ne faudrait pas tomber dans le piège.
Merci, Dispas Kitenge. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que les déclarations seules ne suffisent pas. On a des déclarations de tout le monde, de beaucoup de gens en tout cas, y compris de notre président, mais il faut des actions. Il faut des actions concrètes en termes de révalorisation de notre pays, de la lutte contre l'impunité et de rapport de force de PIB dans les relations internationales. Et je pense que là, ça passe d'abord des actions internes et des actions internationales et il faut la combinaison de plusieurs éléments pour qu'on arrive. Donc on consulte un État fort, avec une armée forte, avec des services de renseignement et qu'on implique d'autres acteurs forts dans la résolution des problèmes. Nous n'avons pas qu'à compter sur le Rwanda, mais qu'on compte sur d'autres pays qui peuvent nous donner un peu plus de moyens pour nous faire respecter, et en sachant que d'abord il faut balayer la maison pour que la maison soit propre, pour que les autres viennent nous respecter.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Bob Landou qui était à la technique. Merci et aussi à Martin Sebujangwe qui a supervisé cette émission. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite au programme sur Radio Capitale.